Bonjour, c'est Renaud Dely, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Y aura-t-il des trains à Noël ? Coup de pression des cheminots. Les quatre syndicats de la SNCF appellent à une grève de 24 heures demain, puis à une grève illimitée à compter du 11 décembre.
Évidemment, ça peut impacter les voyages de fin d'année familiaux.
C'est un peu la même rengaine tous les ans, j'ai l'impression. Après, c'est certainement que la cause est louable.
Les cheminots s'opposent au redécoupage de fret SNCF en deux sociétés distinctes à partir de janvier 2025. Une scission négociée à la demande de la Commission européenne qui estimait que la France subventionnait trop un secteur ouvert à la concurrence. Sudrail dénonce depuis des mois un carnage social et un scandale écologique.
Au moment où il y a de plus en plus de crises climatiques, et ben que fait le gouvernement ? Sous couvert d'injonction de la Commission européenne, il casse ce bel outil écologique qui est fret SNCF.
Les syndicats s'opposent également à la poursuite de l'ouverture à la concurrence du rail. Près de 60% du réseau TER est actuellement en processus d'appel d'offres. Sur les lignes nationales à grande vitesse, Trenitalia a été fin 2021 la première compagnie à profiter de l'ouverture du marché français, suivie depuis par l'espagnol Renfe. En 2028, un nouveau concurrent français entrera en service, Proxima, dirigé par l'ancienne patronne des TGV à la SNCF.
Proxima, c'est une compagnie indépendante de trains à grande vitesse, 100% made in France. Nous allons relier les quatre grandes villes de la côte atlantique à Paris, donc Bordeaux, Angers, Nantes et puis Rennes. On vient avec Proxima à rajouter 10 millions de places supplémentaires par an sur ces destinations.
Alors la concurrence aura-t-elle un impact sur la qualité des services et sur le prix des billets ? La SNCF joue-t-elle sa survie ? La privatisation du rail est-elle en marche ?
Nous allons voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, Romain Pitelet. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots. Selon vous, on assiste à une casse de l'outil public qu'est la SNCF. Dites-vous, on privatise le rail pour répondre à une logique de profit, mais voyager en train ne coûte pas moins cher. À vos côtés, Stéphane Sautarel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. À vous. Vous êtes sénateur Les Républicains du département du Cantal. Vous avez co-signé en 2022 un rapport avec un de vos collègues sénateurs sur la situation de la SNCF et ses perspectives. Et selon vous, la concurrence dans le transport de voyageurs et de marchandises est liée à nos engagements européens. S'il n'y a pas beaucoup d'opérateurs autres que la SNCF aujourd'hui, c'est d'abord parce que le coût d'entrée sur le réseau est trop élevé. Et puis à vos côtés, Lucille Schmitt, bonsoir. Vice-présidente du think tank La Fabrique écologique, selon vous, la concurrence, Lucille Schmitt, dans le train, ce n'est ni bien ni mauvais en soi, ça dépend dans quel but elle est mise en place. Mais il faut mettre le paquet, dites-vous, sur le ferroviaire, en particulier en raison des enjeux environnementaux fondamentaux. Tout de suite, avant d'ouvrir ce débat, une première petite question, Romain Pitelet. Ça y est, la saison de la grève est ouverte, en quelque sorte, à la SNCF. Des préavis à l'approche des fêtes de fin d'année, on l'a déjà vu, c'est déjà arrivé par le passé. Est-ce qu'on doit effectivement, oui ou non, redouter un impact sur le trafic, selon vous, à l'occasion des fêtes de fin d'année ?
Bon, déjà, on va faire le bilan de la journée de demain, voilà, qui s'annonce quand même avec une mobilisation plutôt intéressante.
Ensuite, nouveau préavis à partir du 11 décembre.
Alors, nouveau préavis, alarme sociale. Hein, voilà, les organisations syndicales vont se retrouver le 21 au soir et puis on va discuter, on va échanger aussi des modalités et des modes d'action qu'on va lancer à partir du 11 décembre. Mais y compris le 31 décembre et aujourd'hui, il y a encore du temps. D'accord. Pour discuter. Et d'accord, ça, c'est vraiment le cœur de notre sujet.
On discute et on verra, effectivement. Alors, vous discutez notamment d'un des motifs de ce mouvement, c'est la question du fret ferroviaire. Oui, et c'est votre schéma du jour.
Effectivement, pour éviter de fermer fret SNCF, la SNCF devait donc soit rembourser les aides qui avaient été versées, soit scinder l'entreprise en deux. D'un côté, Exafret pour le transport de marchandises, de l'autre, Technis pour la maintenance des locomotives. Alors, on n'avait pas le choix de faire cette scission, Stéphane Sautarel ?
Non, on n'avait pas le choix, puisqu'on avait un contentieux européen qui déjà remonte à plusieurs années, hein, sur lequel, effectivement, il y avait une recherche d'issue favorable, positive. On l'avait souligné, d'ailleurs, dans notre rapport en 2022. Mais pour pouvoir réinvestir justement dans le fret ferroviaire, parce que nul ne doute de la pertinence du fret ferroviaire, qui est malheureusement insuffisamment présent encore dans notre pays, on a besoin en fait de rentrer sur ce marché ouvert et donc d'avoir un rapport à l'argent public qui soit tout à fait transparent. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes contraints à cela.
Obligés par Bruxelles, en quelque sorte.
Obligés par Bruxelles. Alors, on peut discuter des règles de Bruxelles, mais simplement à partir du moment où elles existent, on est dans l'obligation de les mettre en œuvre.
Et Romain Pitlet, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ?
C'est une mauvaise nouvelle, je vais répondre en partie aux sénateurs aussi. Nous, on pose le sujet du caractère illicite de ces aides. Il y a des millions d'euros d'argent public.
Des 5 milliards, en l'occurrence.
Voilà, mais qui, pendant des années, hein, ce n'est pas sur une année, pendant des années, qui ont été apportés à Fret SNCF, notamment sur la question du wagon isolé. C'était le seul opérateur Fret SNCF
donc
à faire…
Donc les petits chargements, c'est voilà, ça, le wagon isolé.
On prend des wagons de différents chargeurs, on fait un train, on l'envoie à l'autre bout de la France et on redispatche vers les destinataires. Donc ça, c'est une activité essentielle en plus en termes d'industrialisation du pays. Ces aides-là, Fret SNCF les a reçues alors qu'elle était le seul opérateur à faire ce genre de dispositif. Donc moi, je veux bien qu'il y ait des aides illégales à une entreprise publique, ouais. À partir du moment où elle est seule à le faire, en quoi c'est illégal ? Enfin, il n'y avait pas d'autres opérateurs. Donc pour nous, le caractère illégal, enfin illicite ouais. En tous les cas, est très discutable.
Sauf que bon, ce n'est pas l'avis des instances européennes, des commissions européennes. Alors, l'État était dans son rôle en aidant effectivement le fret ferroviaire, le fret SNCF, ou est-ce qu'il faut de toute façon se plier aux règles européennes ?
Non, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une doctrine sur les aides illégales d'État, qui est une doctrine qui est en train d'évoluer du côté de la Commission européenne. Les doctrines, ça s'insère dans un contexte. Et quand on fait le pacte vert, ça signifie que, imaginez qu'il faut investir dans des secteurs d'avenir, c'est différent quand on prend en considération justement les critères environnementaux ou les critères tout simplement d'avoir un réseau de transport qui fonctionne bien, qui soit bien interconnecté sur l'ensemble de l'Union européenne. Et on sait qu'aujourd'hui, le train... L'investissement ferroviaire, dans les deux dernières années, c'est un sujet sur lequel la Commission européenne, en fait, a changé de position. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que il faut aussi, vous disiez tout à l'heure que j'avais dit, bon, ben, la concurrence est ni bon ni mauvais, il faut tenir compte, en fait, des traditions et de l'organisation nationale. C'est-à-dire que l'Allemagne n'est pas la France, qui n'est pas l'Espagne lorsqu'il s'agit du ferroviaire. Et puis, il y a des pays dans lesquels le fret, ça marche bien. Par exemple l'Allemagne, par exemple les Pays-Bas, et il y a des pays dans lesquels ça marche assez mal, par exemple la France. Et donc le sujet, c'était en fait que les aides d'État étaient faites pour, au fond, faire un investissement dans le fret, et par rapport à ce que vous disiez, il y a des activités rentables et d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, la difficulté de l'ouverture à la concurrence sur le fret, c'est que certaines activités n'étaient pas rentables et on les a laissées à la SNCF, et on a donné aux concurrents les activités rentables.
Vous disiez que ça ne marche pas très bien, le fret, pourtant le gouvernement est très ambitieux en la matière.
Et oui, la part de marché baisse depuis 10 ans, on est bien loin derrière nos voisins, mais le ministre des Transports, François Durovray, a un plan.
Le mouvement que nous engageons sur le fret est un mouvement d'avenir. L'ensemble des wagons va rester sur le fer et donc aucun fret ne va aller sur la route. Nous avons la chance d'avoir des routes aujourd'hui, des routes ferroviaires qui sont de qualité. Nous avons des entreprises qui aujourd'hui demandent du transport de marchandises par le fer et donc je suis très confiant dans la capacité du fret à se développer dans notre pays.
Alors Stéphane Sautarel, le fait que notre part de marché du fret ferroviaire stagne à 9-10%, c'est-à-dire que le reste c'est globalement des camions, ça prouve que l'ouverture à la concurrence du fret qui date d'il y a 20 ans, ça ne sert à rien ?
Non, c'est pas que ça ne sert à rien, c'est que les conditions dans lesquelles cette ouverture à la concurrence a été faite n'est pas suffisante ou satisfaisante. En particulier, un des sujets majeurs qu'on pointait dans notre rapport, c'est la question du réseau. Et donc le réseau aujourd'hui n'est pas dans un état qui permet de supporter à la fois le développement du transport voyageurs et en même temps le fret. Or, le fret circule en fait au moment où on fait la maintenance sur les réseaux. Ça, c'est une des difficultés. Et un des points sur lesquels nous étions très insistants, c'était la nécessité, si on veut réellement être opérationnel, si on veut réellement ouvrir la concurrence, c'est de séparer l'activité SNCF Réseau du groupe SNCF dans son ensemble. Il y a une concurrence qui est sur le...
C'est la maintenance du réseau, c'est l'entretien des voies.
C'est l'infrastructure. Voilà. L'infrastructure doit être publique et nécessite un investissement public pour faire circuler des trains qui peuvent, eux, être de différents opérateurs.
Romain Pitlet, si les conséquences de cette ouverture à la concurrence du fret sont aussi faibles, aussi minimes, finalement, est-ce que ce n'est pas parce que la concurrence est faussée, en quelque sorte, et qu'il y a des règles qui sont imposées qui la contrecarrent ?
Non, ce n'est pas qu'elle est faussée. Enfin, nous, on constate, alors là, on a un point de désaccord, on constate que l'ouverture à la concurrence est un échec. D'ailleurs, on a demandé, et on demande depuis des années...
C'est parce qu'elle ne va pas assez loin, non ?
C'est pas qu'elle, que les règles non, c'est qu'elle ne va pas assez loin. C'est que la concurrence dans le ferroviaire ne peut pas marcher et n'est pas facteur de développement. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que le sujet revient sur la place publique. Nous, on demande très rapidement trois choses. La première, c'est que le ministre sorte de sa posture et qu'il mette en place un moratoire sur le plan de discontinuité pour qu'on ait le temps de discuter voilà, sur le fret SNCF. Voilà. Un moratoire, on se pose, on met tous les acteurs autour de la table, les chargeurs, les organisations syndicales, le ministre, la SNCF, on met tout le monde. Et ça, c'est important. Le deuxième point, c'est, par exemple, mettons, dans le débat national, on a une occasion. On demande depuis des mois qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale avec un vote du Parlement. C'est bizarre, mais le Premier ministre Barnier l'a accordé aux agriculteurs. Bon, c'est sur le
sujet. Mais un vote sur quoi ? Il n'y a pas de projet de loi, il n'y a pas de nouveau texte.
Ah, mais il n'y a pas besoin de.
Un vote indicatif.
Un débat, et puis un vote. Alors, peut-être symbolique.
Un vote sur quelque chose, oui.
Mais en tous les cas, qui posera les affaires.
Position, il faut un objet.
Et puis là, dans l'urgence, on demande, nous, une tripartite, rencontre entre la direction SNCF, le ministre des Transports et les organisations syndicales, c'est prédominant. Il y a urgence sur le fret de cette question-là.
Lucille Schmitt, est-ce qu'on investit assez dans le fret ferroviaire ? Est-ce que l'État investit assez dans le fret ferroviaire ?
Je pense que le sujet, c'est que quand on dit investir dans le fret ferroviaire, on imagine des investissements ferroviaires et qu'en fait, organiser le fret, ça veut dire investir dans les ports, ça veut dire investir dans la connectivité et qu'en fait, l'essentiel des investissements qui ont été faits en matière de fret ont été des investissements dans le fret routier. Et donc, depuis une vingtaine d'années, le sujet n'est pas seulement la concurrence, en fait. C'est comment est-ce que dans certains États, comme l'Allemagne, par exemple, dans les grands ports allemands, comme à Hambourg, en fait, on imagine la connexion entre le train et l'arrivée du bateau, par exemple. Et en France, on a eu trop longtemps une politique où, en fait, on avait segmenté les choses et puis, quand même, un choix. Je voulais rappeler, puisqu'on parlait du Parlement, qu'il y a eu un rapport d'enquête parlementaire qui a été fait en décembre, qui a été publié en décembre 2023, qui est un rapport qui avait demandé un moratoire, en fait, sur la stratégie de discontinuité qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait de scinder fret SNCF en deux entités différentes. Donc il y a déjà des travaux parlementaires. Et ce qui est essentiel, c'est de comprendre que si ça ne marche pas en France, le fret, ce n'est pas seulement de la faute du train, en fait. C'est aussi de la faute de l'ensemble du réseau de transport et de la logistique.
Dans les wagons, il n'y a pas que du fret. Il y a aussi parfois des voyageurs. L'ouverture du trafic voyageur à la concurrence, elle aussi, eh bien, ce n'est pas une nouveauté. Elle remonte à 2009. Pour les lignes internationales. Deux ans plus tard, un premier opérateur privé débarquait justement sur le rail français. C'est notre archive du jour.
Effervescence inhabituelle ce soir à la gare de Lyon. Sur le quai, un train pas tout à fait comme les autres. Lancé par Veolia et un partenaire italien, Tello est en France le premier train de voyageurs privé.
Comme d'habitude, en fait. Ça ressemble tout à fait aux autocouchettes.
La voiture restaurant non plus n'a pas changé, mais le service semble un peu plus haut de gamme.
C'est des charcuteries et du fromage. Ouais, on essaie de faire quelque chose comme sur les avions business class.
Notre pari, déjà, c'est de dire que là où la SNCF n'y croyait plus, nous y croyons. Nous pensons faire un produit meilleur que ce qu'il y a eu jusqu'à présent.
Après 13 heures de voyage, la lagune puis la gare de Venise sont enfin en vue pour laisser débarquer des voyageurs plutôt satisfait.
Alors il faut dire que depuis cette ligne, elle a fermé, c'était en 2011, mais le premier trajet national, donc à l'intérieur de la France, c'était un Paris-Lyon opéré par Trenitalia il y a 3 ans. Quel bilan on peut tirer de cette ouverture à la concurrence du trafic voyageur en termes de prix, Stéphane Sautarel ?
Alors, d'abord, on parle des grandes lignes, hein, puisqu'il y a deux ouvertures à la concurrence. Donc là, parlons des grandes lignes. Le bilan, il est forcément aujourd'hui limité ou nuancé, puisque vous l'avez dit vous-même, il y a peu d'opérateurs entrant sur le marché.
Pourquoi il y a aussi peu, d'ailleurs ?
Parce qu'il y a deux raisons. Un, il y a une rentabilité des lignes. Les opérateurs privés sont venus sur les lignes les plus rentables, et Paris-Lyon en est l'exemple même. Et on a un deuxième sujet, je suis désolé d'y revenir, c'est celui des infrastructures. Et sur celui des infrastructures, on a une spécialité française, c'est le coût des redevances, c'est-à-dire le coût de roulage des trains, qui est beaucoup plus important que dans les autres pays européens, à peu près le double, par exemple, en Allemagne. Et donc, ça, c'est un coût d'entrée, quel que soit l'opérateur qui fait rouler des trains sur ces infrastructures-là.
– Ça, c'est la faute à qui ?–
C'est la faute, aujourd'hui, à l'État et à SNCF Réseau. Oui. Hein, c'est pour ça que nous, on considère qu'il faut une indépendance du réseau et il faut de l'argent public sur le réseau. En revanche, ensuite, on peut faire circuler des trains de différents opérateurs sur ce réseau. C'est ça, je crois, qui explique en partie la limite aujourd'hui de l'ouverture à la concurrence dans les faits.
Mais Romain Pitlet, ça veut dire qu'il n'y a que des grandes entreprises comme Renfe ou Trenitalia aujourd'hui qui peuvent exploiter le réseau SNCF. Les autres sont voués à l'échec ?
Ça dépend de la manière dont ils le font. Et puis, de toute façon, nous, on est plus pour une coopération entre les grandes entreprises publiques plutôt qu'une mise en concurrence. Voilà, nous, on n'est pas forcément ravis que la SNCF utilise des rames pour aller faire des Ouigo en Espagne, alors qu'à l'intérieur du pays, on aurait besoin d'autre chose.
Même si ça bénéficie peut-être aux voyageurs, parfois, sur le coût du billet, cette concurrence ?
C'est très relatif. Là, vous avez cité dans votre sujet d'ouverture le sujet de Trenitalia. Le bilan de Trenitalia, celui qu'on a aujourd'hui sous les yeux, hein. 3 ans d'exercice. Les 2 premières années, vous avez parlé des péages. Ils ont été exonérés de péages. Donc, ces péages qui servent justement au financement de l'infrastructure.
– Mais pour nous, pour le voyageur.
– Oui, mais ça a des conséquences derrière. Alors après, on peut effectivement essayer de faire des billets à 1 euro. Sauf qu'au bout d'un moment, les billets à 1 euro, s'il n'y a pas de financement derrière et s'il n'y a pas de viabilité de l'entreprise, je parle bien de viabilité et pas de rentabilité. Viabilité, c'est chez nous. Donc, 2 ans d'exonération de péage. La troisième année, 30% de réduction. Le taux de remplissage, 40% des trains. 40% des trains et 34 millions de déficits pour Trenitalia. Donc vous voyez bien que pour supporter le mode ferroviaire, qu'il soit de voyageurs ou de marchandises, c'est bien la question de l'État stratège et de l'entreprise publique.
– Lucille Schmid, Stéphane Sautarel, il y a un instant, évoquait le fait que si, selon lui, cette ouverture à la concurrence, il y avait aussi peu d'opérateurs privés qui s'étaient jetés en quelque sorte, en tout cas s'étaient intéressés à certaines de nos lignes, c'était parce qu'ils investissaient uniquement sur des lignes rentable. Est-ce qu'on peut éviter ça ? C'est-à-dire que les privés se prennent en charge les lignes rentables et puis que l'État, lui, s'occupe des lignes déficitaires. Est-ce qu'il faut contraindre, par exemple, les opérateurs privés à acheter un certain nombre de lots avec à l'intérieur des lignes rentables et d'autres qui ne le sont pas ?
Pourquoi pas ? Mais moi, ce qui me semble surtout intéressant, c'est également de parler des trajets du quotidien. C'est-à-dire oui. qu'au fond, là, on parle du TGV parce qu'on est marqué par Paris-Lyon, etc. Mais on voit bien que, je voulais rappeler qu'il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, le rapport Spinetta, fameux rapport, avait dit qu'il fallait fermer les trains du quotidien. Et puis on s'est aperçu que non, tiens, il ne fallait pas fermer les trains du quotidien et que correspondait à la nécessité, après les Gilets jaunes, la nécessité, au fond, d'installer...
Justement, les TER aussi vont s'ouvrir à la
Exactement.
Concurrence.
Mais ça, je pense que les TER s'ouvrent à la concurrence, ça peut être assez intéressant, parce qu'il y a un sujet, en fait, de fréquence des trains. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de cadencement et de fréquence. Si on veut vraiment avoir du transport en commun... type train du quotidien, peut-être que la concurrence peut être bonne. Sur les TGV, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que le sujet, c'est aussi, quand on parle privé-public, qu'on voit bien effectivement comment ça joue et que du coup, on se dit, tiens, l'argent public, il va servir en fait à renflouer et à servir en fait au service public, alors même qu'il n'y aura pas de service public assuré par des opérateurs privés. Et puis, il y a quand même aussi un enjeu qui est la route. Je voulais quand même insister sur le fait que là, on parle que du train, mais on a, en France, on a un réseau routier qui est extrêmement développé. Et là, le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une stratégie qui développe une forme d'intermodalité entre le train du quotidien et la route. Et comment est-ce que, justement, le cadencement des trains pourrait faire ça.
Je reviens sur les TER, Stéphane Sautarel. Oui. L'ouverture à la concurrence des TER, des trains régionaux, est-ce que c'est une bonne nouvelle, par exemple, pour un élu d'une région, on va dire, plutôt enclavée, comme le Cantal ?
Alors, le Cantal est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc
c'est utile pour les habitants, justement, d'aller dans cette direction.
C'est pas une religion, c'est-à-dire que l'ouverture à la concurrence...
C'est davantage d'offres.
C'est pas une religion.
D'accord.
En revanche, ça peut être effectivement une réponse. Et puis, moi, je me place toujours dans le droit positif. Vous avez raison tout à l'heure de dire que la doctrine de la Commission européenne est en train d'évoluer et que le tout concurrence est sans doute en train de, avec les événements qu'on a connus ces dernières années, en train d'être modifié. Et pour ma part, je m'en réjouis parce que je pense qu'il faut effectivement une politique d'aménagement du territoire à côté de cette question-là. Mais sur les TER, pourquoi ça fonctionne aujourd'hui ? C'est parce que les régions se sont beaucoup investies dans les trains du quotidien. Et donc l'investissement des régions, que ce soit sur le matériel roulant, on a une rénovation du matériel roulant incroyable. Quand on voit aujourd'hui les trains d'équilibre du territoire qu'on a sur des lignes comme Paris, Clermont-Ferrand ou Paris-Limoges, qui datent des années 50 ou 60, alors que tous les TER dans toutes les régions ont été rénovés, c'est pas la même chose. Après, la question de l'ouverture à la concurrence, aujourd'hui on va l'appliquer, mais moi je ne suis pas sûr que ce soit la totalité de la réponse. Par contre, je veux juste répondre sur un point, c'est que la SNCF, qui aujourd'hui freine un peu sur l'ouverture à la concurrence en France, par ailleurs, elle va attaquer des marchés à l'étranger, et une partie de ses ressources proviennent soit de ses filiales, soit des marchés qui existent à l'étranger.
On évoquait justement à l'instant tous ensemble cette question de l'ouverture à la concurrence en France. Certains de nos voisins, et nos voisins britanniques, en l'occurrence ANA, font le choix inverse.
Oui, exactement. En tout cas, le parti travailliste a promis de renationaliser les chemins de fer. Un projet de loi est actuellement à l'étude au Parlement et prévoit donc la renationalisation de ces entreprises du rail d'ici 5 ans. Alors, retour en arrière il y a 30 ans pour essayer de mieux comprendre. On est en 1994, la compagnie publique British Rail est démantelée et éclatée en une centaine d'entreprises privées. Certaines sont chargées du transport des passagers, d'autres du transport des marchandises, de l'entretien des voies ou bien de la gestion des trains. Mais dès les années 2000, eh bien, c'est là que les choses se compliquent. Annulations, retards, grèves et surtout, les usagers s'agacent des prix qui ne cessent d'augmenter. Le gouvernement de l'époque décide donc de reprendre la main. Certaines de ces entreprises repassent dans le giron public. C'est le cas de Network Rail en 2002, après un accident qui a fait plusieurs morts du fait d'un mauvais entretien des voies, mais aussi de la compagnie Arriva en 2020. Et aujourd'hui, eh bien, le Parti travailliste espère aller encore plus loin et créer un organisme unique qui s'appellerait le Great British Railways et qui s'occuperait du transport des passagers, mais aussi de l'entretien des infrastructures. C'est un petit peu l'équivalent de notre SNCF. Et à l'inverse, le fret, lui, eh bien, resterait privé. Romain Pitelet, au Royaume-Uni, on l'a vu, l'ouverture à la concurrence, mais elle a été un échec. Est-ce que c'est ce qui nous attend en France d'ici quelques années ?
Alors, évidemment, là encore un point de désaccord. On va dire que la concurrence, ça dépend comment on la met en œuvre. Ouais. Enfin, on revient sur le début. Un service public n'a pas vocation à faire des bénéfices, à faire du profit. Voilà, et c'est là le cœur du sujet. Comment un opérateur privé va faire de manière très philanthropique du service public sans avoir à rémunérer ne serait-ce que ses actionnaires. Et c'est ce qui, d'ailleurs, s'est passé en Angleterre. L'augmentation des prix, la baisse de la qualité de la maintenance du réseau. C'était exactement ça. Il y avait une multitude, une myriade d'entreprises, de PME, ce qui est en train d'essayer d'être construit en France, de PME qui, en plus, ne discutent pas forcément ensemble, qui sont sous l'autorité, pour la France, en tous les cas, des régions pour ce qui concerne le TER. Mais leur objectif, c'est de faire de la marge sur les contrats. C'est faire de la marge. Donc, du coup, il faut abaisser les conditions sociales des cheminots, des salariés qui travaillent dans ces entreprises, et puis une baisse de la qualité de service. Mmh. Juste un exemple qui est à nos portes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le lot qui est remporté par Transdev. Transdev annonce déjà la suppression de 78 guichets au lieu d'accueil des usagers sur les lignes qu'elles vont exploiter. Ben, on baisse la qualité de service sur le niveau des prix. Interrogation. Sur les circulations, aucune garantie qu'il y aura une augmentation du nombre de circulations. Hein.
Stéphane Sautarel, l'intervention d'acteurs privés, c'est forcément la faillite et le naufrage décrit à l'instant par Romain Pitelet ?
Non, je ne crois pas tout à fait.
L'exemple britannique.
L'exemple britannique, moi je ne défends pas l'exemple britannique, ouais. Et vous l'avez entendu avant même que vous le rappeliez, il y a une différence entre les infrastructures qui doivent absolument rester dans le giron public pour des questions de coût de ces infrastructures, de sécurité de ces infrastructures. De ce point de vue-là, on peut se réjouir de l'action de la SNCF sur l'entretien de ce réseau, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais rappelons que l'État a dû reprendre 35 milliards de dettes de la SNCF, et aujourd'hui, le cumul des contributions annuelles entre l'État et les régions en faveur de la SNCF, c'est 17 milliards. Donc, la question qu'on pose légitime, c'est est-ce qu'on peut avoir, avec ces moyens qu'on consacre à ce service public, un meilleur service et surtout un prix pour l'usager en conséquence. Or, aujourd'hui, sur les grandes lignes, on est obligé de constater que le tarif, le fameux yield management sur les tarifs des billets, n'est pas à la hauteur des attentes des usagers.
30 secondes de conclusion, Lucie Schmitt, privé, public. Le privé en Angleterre, ça ne marche pas bien. Le public en Allemagne, ça ne marche pas mieux. La Deutsche Bahn aussi est en crise. Vétusté, retard,
annulation. Ce que je retiens de la rétrospective britannique, c'est qu'on construit une politique de transport sur le temps long, et on l'a construit avec des investissements, et on l'a construit avec des usagers. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la SNCF, elle fait plutôt bien son travail, mais il y a un vrai sujet d'opacité, parfois, pour les usagers, et ça, c'est un point important. Et on a beaucoup parlé d'argent pour qu'on puisse investir de manière publique. Ce qui est essentiel, c'est que les usagers comprennent pourquoi, comme contribuables, ils donnent à la SNCF et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui permet en fait de mieux rémunérer l'argent public et de construire un avenir.
Sur le temps long, disiez-vous, voilà donc qui nous donnera l'occasion d'en débattre de nouveau et vous serez les bienvenus. Merci à tous les trois d'être venus répondre ce soir sur ce plateau à notre question du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.